J'ai pour thématique de vous faire un petit point sur l'actualité de la recherche thérapeutique sur la maladie d'Alzheimer. Sujet important, sujet souvent plus ou moins bien présenté dans la presse avec des nouvelles tantôt trop optimistes, tantôt trop pessimistes, tantôt très négatives. Et c'est peut-être un peu ça aussi que je veux corriger. Donc j'ai une formation de neurologue et je suis maintenant donc dans ce rôle de directeur scientifique adjoint de la fondation aux côtés de Bruno Dubois, qui est le professeur de Bruno Dubois, qui est le directeur scientifique. Donc mon plan, c'est je vais très brièvement parler des biomarqueurs. Biomarqueurs, je traduis, ce sont tous les examens complémentaires qui sont des aides au diagnostic. Et c'est important d'en parler, même pour parler d'activité thérapeutique, parce que c'est une évidence, mais sans bon diagnostic, il ne peut pas y avoir de bon traitement. Donc c'est une étape obligatoire d'en passer par là pour arriver à monter les essais cliniques corrects qui vont pouvoir démontrer ou infirmer l'efficacité d'un traitement que l'on teste. Ensuite, bien sûr, partie sur la recherche clinique, avec un focus sur ce sujet qui est le plus important peut-être, c'est est-ce qu'on peut vraiment freiner ou arrêter cette maladie? Arrêter, peut-être compliqué, freiner, ce serait déjà un progrès considérable. Et enfin, je me risquerai à quelques prospectives un petit peu pour voir comment est l'horizon. Donc, je parle de révolution des biomarqueurs parce qu'il y a vraiment effectivement une grande innovation. On est parti donc de la découverte des deux anomalies. Bon, c'est en haut les petites diapositives qu'il y a. En haut de celle-là, grande, ce sont les images des deux coupables, des deux anomalies pathologiques qu'on retrouve dans le cerveau des patients atteints de maladie d'Alzheimer. Les lésions amyloïdes bêta, qui sont donc les plaques amyloïdes, et puis à droite, les dégénérescences neurofibrillaires qui sont faites de l'accumulation de protéines tau pathologiques. Ces deux anomalies, donc, datent de la découverte d'Alzheimer. Bon, je ne reprends pas l'historique, mais c'est très anciennement connu. C'était découvert, évidemment, à l'examen post-mortem des cerveaux. Mais on était désarmés pour faire un diagnostic du vivant d'un patient. Et c'est quand même important, si on veut pouvoir les traiter, que de faire un diagnostic à temps. Et la première révolution, ça a été effectivement d'avoir ces fameux outils diagnostiques qu'on appelle biomarqueurs, qui sont donc des examens cliniques. Des examens complémentaires justement de la clinique qui vont permettre d'accéder à la diagnostic. Alors les examens, ils sont de deux types. L'examen d'imagerie, et comme vous allez avoir après cette présentation une du professeur Gage, qui est un grand spécialiste de la chose, je ne vais pas m'y attarder beaucoup, je vous laisse la primeur d'en parler. Et l'autre versant, c'est le diagnostic biologique. Ce sont des dosages dans une éprouvette, hein, on recueille un fluide physiologique et on l'examine. En l'occurrence, c'est souvent le liquide céphalorachidien, c'est lui qui était le plus examiné parce qu'évidemment il est au contact du cerveau, hein, c'est un liquide qui baigne l'ensemble du système nerveux central. Et donc au contact, c'est là qu'il y a la plus forte concentration des protéines pathologiques que l'on peut être amené à rechercher. Et la première étape, ça a été d'intégrer ces découvertes de ces marqueurs à l'exercice de la médecine, en particulier l'exercice d'abord de la recherche médicale pour les traitements. Et là, il faut saluer l'implication et l'influence et le leadership du professeur Bonnet Dubois, qui a été vraiment, qui a joué un rôle moteur pour initier ce mouvement. Il a rassemblé des groupes de travail internationaux avec ces deux publications qui sont, il y en a eu deux ou trois dans l'intermédiaire, mais enfin c'est les principales étapes, hein, le début et la fin, si vous voulez, de ce développement, pour dire maintenant on a des biomarqueurs, il faut savoir comment on les interprète et comment on définit la maladie en fonction de ce qu'on trouve dans ces biomarqueurs. Donc, publication dans des journaux importants, c'était Lancet Neurologie, hein. Et ça a vraiment été un vrai changement parce que, encore une fois, ça permet d'abord de cibler les bons patients. On se traite maintenant, on teste les traitements sur des patients dont on est sûr qu'ils ont la maladie parce que les biomarqueurs permettent de l'affirmer, alors qu'avant, comme je vous le disais, on ne le faisait que sur des critères cliniques. Critères cliniques qui ont un nom impossible à prononcer, NINDCS et DRDA, qui était un vieux truc qui reposait sur ce qu'on faisait, hein, à l'époque, c'est-à-dire un patient qui avait des troubles de la mémoire d'installation progressive, sans cause évidente au scanner, autre qu'une petite atrophie du cerveau, pas d'autres anomalies suspectes. On se disait, ben voilà, il est âgé, il perd la mémoire. Il n'y a rien qu'on voit de tangible qui puisse expliquer autrement qu'une pathologie neurodégénérative. Il a l'Alzheimer. Et en fait, ce qui se passait, c'est que dans les premiers essais de ces traitements dont je vais vous parler, a posteriori, on s'est aperçu que, je crois que c'est 30% des patients n'avaient pas la pathologie que l'on croyait traiter. Donc évidemment, on ne pouvait pas arriver à conclure de façon intéressante sur des bases comme ça. Donc première révolution, on peut cibler le bon patient. Deuxième révolution, là j'ai fait figurer un cerveau normal à droite, à gauche, pardon, et un cerveau pathologique à droite. Vous voyez, juste pour dire un mot, atrophie. Atrophie, ça veut dire que les neurones ont été perdus, des neurones ont été perdus, et pour l'instant, on ne sait pas faire repousser les neurones, donc si on veut traiter, il faut traiter avant qu'on ait perdu beaucoup de neurones. Alors ce qui est intéressant à voir, c'est ce graphe un peu théorique, mais qui décrit quand même une réalité, qui est l'évolution de ces fameux biomarqueurs au cours de l'histoire du traitement. Et la courbe en rouge, ce sont les biomarqueurs, peu importe qu'ils soient d'imagerie ou de biochimie, mais qui reflètent la pathologie amyloïde. Et on voit qu'elle démarre très tôt. On a pu démontrer dans des formes particulières de la maladie, des formes génétiques, qu'elles sont présentes plus de 10 ans avant le début de la maladie, le début clinique de la maladie. Il en va un peu de même pour le taux, la courbe en vert, qui apparaît un petit peu plus tard, mais qui aussi précède de loin, comme vous le voyez, le premier pointillé qui est l'entrée dans les troubles cognitifs légers, ce qu'on appelle MCI, hein, troubles cognitifs légers en français, et bien sûr largement avant l'état de troubles cognitifs sévères qui sont appelés du bon anglais dementia, mais qui font bon, ces troubles cognitifs sévères. Donc vous voyez cette chronologie, les marqueurs de la pathologie assez spécifique amyloïde tau qui apparaissent très tôt, les marqueurs d'atrophie corticale donc qui témoignent déjà d'une grosse perte neuronale un peu plus tard, et les marqueurs cliniques encore un peu plus tard. Ça montre donc qu'il y a toute une marge de thérapeutique, de zone thérapeutique, de fenêtre thérapeutique où on peut intervenir avec succès en ayant des fonctions conservées. Donc c'est l'objectif aujourd'hui, c'est de traiter tôt. Donc traiter les bons patients, traiter au bon moment, ça a été les deux apports majeurs de ces biomarqueurs. Troisième nouveauté, et assez potentiellement bouleversante aussi, c'est qu'on est en train de mettre au point, enfin, les chercheurs qui travaillent sur ce domaine, notamment les Suédois qui sont tout à fait exceptionnels sur ce sujet, sont en train de mettre au point des marqueurs plasmatiques. Marqueurs plasmatiques, ça veut dire que ces produits qu'on arrive à doser dans le liquide céphalorachidien, protéines anormales en gros, hein, qu'on retrouve à des doses anormales dans le liquide céphalorachidien, on peut faire cette recherche dans le sang. Alors c'est une prouesse technologique, parce que vraiment c'est des produits qui sont à des doses des concentrations infinitésimales, mais c'est une ouverture fantastique, parce que la ponction lombaire, c'est quand même pas quelque chose qu'on fait facilement tous les jours, même si c'est un geste très banal pour des neurologues, même si c'est finalement assez bien toléré. Bon, c'est pas extrêmement facile à pratiquer, ça oblige un petit moment à l'hôpital quand même. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas aussi facile qu'une prise de sang qui peut se faire en ville de façon très routinière, vous en faites tous régulièrement pour des raisons diverses. Et donc, j'ai mis les publications qui montrent que toutes les possibilités offertes par cette nouveauté qui sont ces dosages plasmatiques. Donc, biomarqueurs qui vont être accessibles, ça implique effectivement de savoir comment on va les utiliser, à bon escient bien sûr, dans quelles conditions et dans comment elles vont s'intégrer dans la démarche thérapeutique, parce qu'il n'est pas évident, il est évident qu'on ne va pas se précipiter pour faire des dosages à tout le monde, à tout tort et à travers, et inquiéter les gens à tort. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur ces fameux biomarqueurs, hein, ces examens complémentaires qui permettent d'accéder au diagnostic et leur importance. Et grâce à ça, on a pu mener des essais cliniques corrects. Et je vais centrer sur les produits qui permettent d'envisager un ralentissement de la maladie. Mais avant, je passe par cette slide qui est un...
Très simple.
Mais elle est en fait très simple, je vais vous l'expliquer. À gauche, c'est simplement pour rendre hommage, enfin un remerciement à Jeff Cummings et à son équipe qui, tous les ans, en mars, sortent un bel article qui fait la synthèse, une compilation de tous les médicaments en développement, en cours, sur la maladie d'Alzheimer. Vous voyez qu'il y a une énorme activité autour de cette maladie, et on s'en réjouit. Il y a beaucoup de, parce que chaque point, c'est une étude clinique et regroupée par, par traitement. Donc, il y a, je crois qu'il a recensé 140 traitements. C'était, j'arrive pas à dire. Oui, c'est ça. De l'ordre de 140 traitements à l'essai. Et ça, c'était en 2000, au début de l'année, en 2022. Hein. On attend la prochaine pour mars prochain. Je pense qu'il sera fidèle à ce rendez-vous. Alors, comment ça se passe, ce graphe compliqué? C'est en fait très simple. D'abord, il y a des cercles concentriques. Cercle concentrique, c'est décrit phase 1, phase 2, phase 3. Plus à l'extérieur, c'est la phase 1. Qu'est-ce que c'est que la phase 1? C'est la première administration du produit à des patients, à des sujets, à des hommes, à des êtres humains, je veux dire. Et on va voir comment le produit est toléré. Est-ce qu'on peut monter les doses? Bon, on a une belle idée, on n'arrive pas sans idée préconçue des marches thérapeutiques qu'on a, mais enfin, on commence à tester un petit peu jusqu'où on peut aller sans que le malade en souffre, ou que le volontaire en souffre. Et ensuite, on étudie la cinétique, comment le produit est absorbé, comment il est éliminé. Bon, quand on a un peu cadré tout ça, on va pouvoir passer à la phase 2. Et la phase 2, on cherche à commencer à voir un effet thérapeutique, justement, quelquefois avec des marqueurs, quelquefois, bon, pour l'hypertension, on prend la tension, c'est simple, ça dépend de la pathologie. Pour l'Alzheimer, on utilise pas mal à ce niveau-là, comme critère principal, l'effet sur les marqueurs, et en critère secondaire, peut-être, voir s'il y a un petit signal sur la cognition, mais comme il faut beaucoup de malades, c'est rarement fait en phase 2. En phase 3, en fait, ça, c'est la preuve finale, hein, c'est vraiment les études qui vont déterminer l'approbation ou pas du produit. On teste le produit le plus proche possible de la vie réelle, donc large effectif de patients, critères de sélection aussi élargis que possible pour refléter justement la population qui serait amenée à le recevoir, et avec, évidemment, on cherche un effet clinique. Donc, pour vous expliquer les cercles concentriques. Après, les secteurs. Oui, je reconnais qu'il faut quand même un petit peu de temps pour l'expliquer, la slide. Alors, les secteurs, ce n'est pas très compliqué non plus. Les secteurs qui sont à gauche, que j'ai indiqué avec la légende en vert, c'est les produits qui sont les produits qu'on dit symptomatiques, c'est-à-dire les produits qui visent à soit améliorer les fonctions cognitives, soit à atténuer les troubles neuropsychiatriques, les troubles du comportement. Donc, vous voyez qu'il y en a moins, parce que on dispose déjà de choses hein, dans ces domaines-là, l'enjeu est plus aujourd'hui de chercher quand même vraiment ce qu'on appelle les disease modifiers, hein, les produits qui vont modifier le cours de la maladie, qui vont vraiment influencer non seulement sur les symptômes, mais sur le cœur de la maladie, sur la pathophysiologie, sur le mécanisme. Alors là, c'est tout ce qui se passe dans les secteurs gris et violacés, je ne sais pas comment les définir, qui sont plutôt à droite, avec deux catégories là encore. En bas, à droite, ce sont les produits qui sont des molécules classiques, hein, les molécules comme médicaments que vous prenez, antibiotiques, antidiabétiques, etc., antihypertenseurs. Ce sont des molécules, hein, des produits chimiques, qui sont des médicaments. Ils sont sélectionnés parce que dans la recherche sur l'Alzheimer, on a identifié que telle cascade enzymatique, tel truc pouvait potentiellement être important sur la pathologie. On a vu que ça bougeait et on se dit, testons un produit qui agit sur cette séquence et voyons ce que ça donne. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à ces produits. Une autre catégorie dans cette classe, toujours des molécules, il y a beaucoup de ce que j'appelle du recyclage. En fait, c'est repurposing en anglais, repositionnement de ces deux produits. Et par exemple, il y a des antidiabétiques, surtout des anticholestérolémiants, anti-inflammatoires qui peuvent être testés à ce niveau-là. L'avantage, c'est que c'est des produits connus, donc on ne va pas avoir de surprise d'effets indésirables. Simplement, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut les administrer de façon continue, chronique? Est-ce que c'est la même dose qu'il faut utiliser? Pour l'instant, donc vous voyez, il y a pas mal d'activités dans ce domaine. C'est assez dense, notamment en phase 2, dans le cercle intermédiaire. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire ce qui est le plus avancé, ce qui a le plus de chances de succès ou pas. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, c'est très hétérogène. Et en fait, le secteur qui va nous intéresser le plus, c'est le secteur du haut, qui sont les médicaments biologiques. Médicaments biologiques, c'est-à-dire des médicaments qui sont en fait des protéines synthétiques qu'on reconstitue en laboratoire, hein, par génie génétique, et qui vont permettre de... Et les deux cibles principales, ce sont ces fameux classiques coupables hein, qu'on a décrits tout à l'heure, les dépôts bêta-amyloïdes et les anomalies de la protéine tau. La protéine tau, j'en parlerai pas plus, parce que pour l'instant, les premiers résultats sont... Enfin, c'est un débat avec plus de retard, c'est moins avancé, et c'est encore en développement. Beaucoup plus avancés sont les produits qui ciblent la fameuse lésion amyloïde, et c'est de ça que je vais maintenant vous parler.
Plus qu'une minute.
La cascade amyloïde, c'est la raison pour laquelle on développe ces produits anti-amyloïdes. L'idée, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez vu sur la fameuse courbe que je montrais tout à l'heure, elle est au point de départ, favorise le dépôt de protéines tau, d'où la mort neuronale, d'où le trouble cognitif. En fait, les choses sont un peu plus compliquées. On sait bien qu'avec l'âge, on accumule de toute façon des protéines tau, et il y a probablement une interaction entre les deux. Qui plus est, il faut rajouter dans la pathophysiologie d'autres marqueurs, et effectivement, la cascade amyloïde est un peu révisée. Comment ça marche ? Ben, l'idée, c'est qu'en coupant effectivement l'accumulation de bêta-amyloïde, on va arriver à réduire, à faire que les autres marqueurs vont être en plateau et que l'atrophie sera stabilisée, que la démence sera, enfin, que les signes cliniques seront stabilisés et qu'on va s'en sortir comme ça. C'est administré en perfusion. Donc voilà, et l'anticorps anti-amyloïde va se fixer à la protéine. L'anticorps va se fixer à la molécule. Les macrophages vont faire leur job, qui est de manger tout ça et vont faire disparaître les plaques. C'est l'idée. Alors, ce qui est important de comprendre encore, c'est qu'il y a plusieurs de ces molécules qu'on appelle tous MAB. Ça se termine par un MAB parce que c'est monoclonal antibody. C'est des anticorps synthétiques monoclonaux, c'est-à-dire une seule. Ils ont tous la même cible exactement. Et à l'intérieur de cette catégorie, il y en a plusieurs qui sont essayés, produits par différents laboratoires. Ils ne sont pas tous équivalents, ils ont des sites d'action un petit peu différents. Ça, c'est l'histoire de la production de l'amyloïde avec la scission enzymatique au début qui libère cette protéine qui est en excès et qui va se former les plaques. Et le cycle passe par différentes étapes. Le truc est libéré, ils vont s'agréger un petit peu en une dimension, en deux dimensions, en trois dimensions, et ça fait cette espèce de plaque qui, en fait, en coupe une plaque, mais en fait, c'est une boule. Et donc chacun a son site de liaison propre et plus ou moins d'affinité pour une ou pas de ces formes, l'une ou l'autre de ces formes. Du coup, ce qu'on a comme résultat pour une molécule, pour un produit, c'est pas une molécule à vrai dire, ce sont des produits génétiques. Mais bon, donc, tout ce qu'on a pour l'un n'est pas extrapolable nécessairement à l'autre. Il a été prouvé que ça marchait bien sur l'effet biologique. Hein. On arrive à, effectivement sur ces études de phase 2 qui sont déjà anciennes, hein, vous avez les dates, 10, 12, 16, à réduire l'aspect biologique de la maladie. On arrive à réduire les plaques qu'on est suffisamment fort de marqueurs, mais le problème, c'est qu'on n'a pas une vraie efficacité clinique, mais c'est en phase 2. Du coup, il a fallu attendre qu'on repositionne justement la recherche sur des patients plus précoces, des patients qui avaient des marqueurs, pour arriver à un premier succès qui a été la dernière, l'été, en juin 2021, donc c'était il y a un an et demi pratiquement, la première approbation d'un produit de ce type qui s'appelle l'aducanumab, qui était approuvé par la FDA. Il n'a pas été approuvé en Europe. Il était, bon, après 20 ans, c'était quand même le premier succès dans l'Alzheimer, donc il était très attendu et il est arrivé. Il est arrivé, mais l'histoire n'est pas tout à fait simple. Bon. Sur le plan biologique, pas de problème, il avait déjà montré en phase 2, il agit bien, ça baisse, voilà, le rouge c'est le placebo et les autres couleurs c'est les deux doses du produit, ça réduit le marqueur, on est content. Là où ça pêche, c'est sur l'effet clinique, deux études, une positive, une négative. Alors, il y a toute une histoire un peu compliquée, je ne sais pas si j'ai le temps de la développer un petit peu, ça vaut peut-être la peine de s'arrêter, c'est qu'en fait, le laboratoire a fait une bourde. On peut le dire comme ça, avec les meilleures intentions du monde. Les études cliniques en général de cette importance, c'est quand même des milliers de patients, hein, sont surveillées par un comité indépendant du laboratoire qui se réunit de temps en temps et a le pouvoir de regarder un petit peu ce qui se passe. Parce que vous savez qu'une étude est conduite en double aveugle, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quel patient reçoit quel traitement. Ça garantit la qualité des résultats, on ne peut pas être influencé. Mais ce comité indépendant, lui, a le droit de regarder de temps en temps ce qui se passe pour voir s'il n'y a pas d'effet indésirable majeur qui apparaît avec un déséquilibre entre le placebo et le produit actif, ce qui inciterait à être vigilant et peut-être à arrêter l'étude. Là, ils avaient été investis d'une autre mission, une deuxième mission, qui était de regarder si, oui ou non, le produit a des chances de démontrer le résultat. Enfin, le résultat, si le produit a des chances d'arriver à une conclusion positive. C'est ce qu'on appelle une étude de futilité. C'est futile de continuer ou pas. Et ils ont fait une analyse intermédiaire qui malheureusement a montré effectivement que les chances de conclure étaient dérisoires et ils ont décidé d'arrêter l'étude. Ça a été un coup de tonnerre dans le monde de l'alzheimerologie. Et ça a été, ce qui était assez, assez critique et incroyable, c'est que peu de temps après, comme entre le moment où ils ont décidé d'arrêter, ils ont pris une photo des données à un temps T. Ils ont nettoyé les résultats, ils les ont analysés, et c'est là qu'ils ont conclu que c'était pas pertinent de continuer. Mais entre le moment où la décision d'arrêter est prise et le moment où ils avaient fait la photographie de la base pour l'analyser, les patients avaient continué à être traités. Donc évidemment, à la fin, ils ont regardé à nouveau qu'est-ce qui se passait avec toutes ces données consolidées. Et c'est là qu'ils sont arrivés à un résultat que je vous ai montré avec une étude positive, une étude négative. Et sur cette base-là, ils ont dit, bah écoutez, on soumet le dossier à l'FDA. Et sur cette base-là, l'FDA a approuvé. Donc, une étude tronquée avec un produit qui probablement aurait pu passer la barre s'il avait été si cette erreur d'une analyse de futilité qui avait conclu négativement à tort n'avait pas été faite. Donc, efficacité biologique indiscutable, efficacité clinique qui restait à démontrer, et la FDA approuve. Vous savez que la FDA, c'est très régulé, les Américains, c'est plein d'avocats partout, et donc il y a des textes, et il faut se tenir au texte. Et il y a une procédure d'approbation accélérée qu'ils ont appliquée, qui permet justement que sur les critères purement biologiques, pourvu qu'ils soient supposés rendre compte de l'efficacité clinique, on puisse approuver un produit. C'est ce qu'ils ont fait, avec effectivement un engagement de refaire un essai qui, au bout d'un certain temps, confirmera l'efficacité.
Il faut vraiment conclure, parce que sinon on va... Oui, s'il vous plaît.
Mais j'ai eu l'introduction aussi.
Ah. Bon. Oui, je sais. Vous allez, t'es court. Non, mais sinon, on va pas rentrer dans les temps.
Donc, beaucoup de controverses, des démissions du comité consultatif de l'FDA qui avait dit non, il ne faut pas l'approuver, non remboursement par les Medicare et Medicaid aux États-Unis, pas d'approbation en Europe. Finalement, le laboratoire a plus ou moins laissé tomber la molécule. Important, mais je vais aller très vite, c'est qu'il y a deux produits en développement. Alors là, la date n'est pas très bien choisie parce qu'on va avoir des nouvelles très précises à fin novembre. C'est un peu tôt pour en parler aujourd'hui, mais on sait d'ores et déjà que deux de ces produits seront présentés fin novembre, le lecanemab et le gantenerumab. Quand j'ai fait ce slide, c'était magnifique parce que le lecanemab avait annoncé que le résultat était positif. Et effectivement, de ce qu'on voit, de la façon dont l'étude a été menée et des résultats qu'ils ont présentés très partiels, c'est bon. Donc c'est un signal très fort. Et le produit devrait être approuvé. Avec une clarté positive. Confirmation. Alors l'important dans toute cette histoire, c'est que on a une confirmation de la piste amyloïde. Parce que, comme je vous l'ai laissé entendre, cette piste amyloïde a été largement contestée. On voit souvent dans la presse, on dépense des millions de dollars depuis des années sur cette piste, mais ce n'est pas la bonne piste. En fait, si, c'est une bonne piste. Ce n'est peut-être pas la seule. Il faudra certainement faire un peu plus. Mais on a déjà la preuve d'une efficacité partielle, insuffisant, qui fera sûrement compléter par d'autres interventions, mais oui, cibler l'amyloïde, c'est pertinent dans l'Alzheimer, il faut continuer cette activité. Il faut aussi faire d'autres choses en parallèle, et c'est ce que, de toute façon, la recherche s'emploie à faire, comme vous l'avez vu avec ce fameux disque où il y a tellement de produits en développement. Donc, il y a des progrès, on a des marqueurs qui sont pertinents, on a des pistes qui sont pertinentes, et on va devoir prendre en considération ça pour effectivement faire la filière de soins adéquate pour utiliser tous ces nouveaux éléments. Donc, je crois que c'est un message plutôt positif que je souhaite transmettre. Et bien sûr, l'histoire n'est pas finie, loin de là, mais il faut continuer à travailler, à investir. Voilà.
Merci beaucoup. Je vous laisse me rejoindre pour quelques questions. On va voir le HF. Bon. On voit qu'il y a encore du chemin. Vous avez le micro qui marche juste à côté. Il y a encore du chemin avant de trouver des thérapeutiques. Est-ce que vous pensez sincèrement que si au bout de plus de 10 années de recherche, on n'a toujours pas de médicaments efficaces, c'est parce qu'on les envisageait trop tôt dans la maladie? Pour vous, là, c'est pour vous. Et est-ce que ça fait consensus? C'est la raison première pour laquelle les essais cliniques n'ont pas donné de résultats à ce jour? Réponse courte.
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Il y a effectivement, on traitait trop tard, on n'avait peut-être pas les bons produits,
on les a affinés.
Mais les bons produits, on ciblait déjà la bêta-amyloïde.
On ne traitait pas les grands malades, oui, mais les molécules ne sont pas toutes l'équivalentes. Oui, certaines agissaient sur, je pense, au salmonisubab, qui ciblait seulement les fibrilles, c'était probablement pas la bonne approche.
Donc, mais est-ce qu'un des soucis, c'est quand même pas que ces plaques amyloïdes, on les retrouve quand même chez un certain nombre de personnes parmi nous, sans qu'on ait aucun signe? Est-ce que c'est quand même déjà pas là un des gros soucis? Je crois que c'est 30% des gens ont des plaques amyloïdes, et d'ailleurs on peut rassurer si un jour on découvre ça, sans aucun symptôme de la maladie. Alors, donc ça peut questionner quand même la pertinence de la cible.
C'est pas tant la cible que le fait de faire un diagnostic sur un seul facteur. C'est ça, l'erreur serait de faire le diagnostic sur un seul élément.
Donc ça veut dire traiter l'amyloïde seul non plus n'est pas une bonne réponse.
Ça veut pas dire la même chose. Non, ça veut dire que l'amyloïde seule n'est peut-être pas une maladie. Mais ça ne veut pas dire que chez les malades, il ne faut pas traiter l'amyloïde.
D'accord.
C'est quand même...
D'accord, il y a une nuance. Bon, il y a des questions aussi dans la salle. Oui, madame, tout de suite, on vous fait parvenir un micro. Le temps qu'ils vous parviennent, vous êtes de... Attendez, il faut... comme on est en registre, excusez-moi. Alors le temps, excusez-moi, je vais poser le temps que le micro arrive. Quid de la stimulation cérébrale profonde qu'on utilise dans Parkinson? On avait dit que c'était peut-être une voie thérapeutique. Est-ce que c'est à l'étude?
C'est à l'étude. Enfin, ce que je connais surtout actuellement, il y a des stimulations non invasives. Des stimulations invasives dans l'Alzheimer, comme c'est une maladie diffuse, j'ai moins vu ça.
Moins, c'est un peu laissé.
Mais la stimulation non invasive, oui, c'est en étude.
Madame, oui.
J'ai une question sur les marqueurs biologiques précoces, éventuellement dans les analyses de sang. Il faut les faire aux patients? Si oui, à quel stade? Et est-ce qu'on peut éventuellement faire aussi aux descendants? Si oui, à quel stade? Et est-ce que c'est une piste d'étude? Et oui, parce que grand-père Alzheimer, maman Alzheimer, je me pose des questions.
On comprend la... Parce qu'il se passe encore...
Oui. Alors,
merci.
Je n'ai pas le temps de développer le problème de la génétique et de l'Alzheimer. Hein. Donc, c'est une question... Il y a deux questions ou trois, donc c'est un peu compliqué. Je crois à ce qu'il faut retenir des vieux marqueurs. Ils existent, il y aura des biomarqueurs sanguins, ils ne sont pas encore en pratique clinique, en recherche, ils sont bien, bien, bien solidement établis, mais il va falloir les développer, faire que d'un laboratoire à l'autre, c'est reproductible, tous les détails sont importants, le type de tube à essai que vous utilisez, ça peut adhérer à la paroi, donc ça va fausser les résultats, il y a plein de facteurs, de temps que ça reste sur la paillasse, enfin, il y a énormément de facteurs à prendre en compte dans les détails, donc c'est vraiment des gens, heureusement, très méticuleux qui font ça, il faudra harmoniser tout ça de façon consensuelle, internationalement, etc. Ensuite, il va falloir effectivement savoir comment on articule tout ça dans la filière de soins, parce qu'on ne va pas proposer des tests comme ça à tout le public. Je pense qu'il faudra voir quel patient, sur quelle base on va recevoir dans des services spécialisés, comment on va estimer s'ils ont besoin ou pas, s'il y a besoin ou pas d'aller plus loin dans la démarche. Donc on fera probablement une batterie de tests cliniques assez classiques, hein, des petits tests psychométriques, voir s'il y a lieu d'aller plus loin. Aller plus loin, on pourra effectivement proposer la prise de sang, prise de sang qui permettra peut-être de revoir le risque global et peut-être d'aller plus loin avec peut-être ponction lombaire, peut-être imagerie, peut-être... voilà, donc c'est toutes ces étapes à prendre en compte.
Pour rebondir sur la question de madame, est-ce qu'il y a, comme il y a dans le cas du cancer du sein, des consultations de génétique pour les personnes qui ont plusieurs membres touchés?
Alors, là aussi, il faut distinguer les plusieurs membres touchés d'une maladie vraiment purement génétique. Parce qu'il y a
quelle est la différence?
Alors, voilà. Dans la maladie d'Alzheimer, il y a 1% des cas qui sont des formes dites autosomiques dominantes. Bon, c'est un peu un gros mot, mais des formes qui sont transmissibles de père en fils ou en fille, en fait, et de mère en fils. Donc ça, c'est des familles assez connues, avec des formes assez jeunes.
C'est quel âge jeune?
Et c'est 1% des cas. Ça peut être à partir de 40 ans.
D'accord.
Donc c'est pas du tout la forme classique de l'Alzheimer. C'est pas du tout la forme classique de l'Alzheimer, c'est très rare. Il y a 1% des cas, les familles sont en général connues parce que malheureusement, ils sont amenés à consulter et ils sont recensés. Donc il n'y a pas proprement parlé. Enfin, ça peut être pris en charge dans des trucs spécialisés qui font de la pathologie génétique neurologique, mais c'est vraiment des situations assez rares. Par ailleurs, dans les centres de mémoire où des patients peuvent aller consulter, on demande effectivement les antécédents familiaux. Et on sait qu'il y a en effet des facteurs de risque génétique, au même titre que le mode de vie est un facteur comporter des facteurs de risque si on est hypertendu, si on est diabétique, etc. Donc il y a un certain nombre d'un arc-en-ciel de facteurs Et en effet, il peut y avoir une charge génétique qui n'est pas négligeable dans l'Alzheimer, mais c'est indépendant de ces formes purement génétiques très lourdes. Bon, la maladie est de façon très lourde, mais... Donc, en soi-même...